Fêtes et culture juive avec Raïm Slonim sur le 97.1.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on sait déjà que lorsque quelqu'un il a un problème psychologique, un problème, quelque chose que le jeune ne sait pas d'où ça vient, on cherche une solution dans un petit peu loin. Il y a de différentes manières comment faire. Il y a des psychologues qui commencent à interroger. En fait, ils cherchent, ils veulent que les patients racontent un petit peu sa vie. Parfois, ils arrivent, ils arrêtent sur quelque chose éloigné. Ils disent, voilà, j'ai trouvé le problème. Puisqu'il y a, quand il était petit, par exemple, il avait telle et telle chose, très éloignée, parfois insignifiant. Mais c'est ça le problème. C'est là où il faut appuyer, c'est là où il doit parler. Et à ce moment-là, quand on arrive à développer que le patient, parfois, il doit parler, c'est à ce moment-là où il ouvre la plaie, mais le fait même qu'il ouvre, c'est à ce moment-là où il est en train de guérir, parce que il était bloqué par ses problèmes. Donc, c'est ça l'idée qu'on cherche. On ne voit pas le rapport entre les problèmes actuels avec ce qui s'est passé il y a très très longtemps, mais il y a un rapport. Parfois, on ne sait pas. Parfois, on ne sait pas où se trouve le problème. Il faut beaucoup parler pour trouver telle et telle chose. À ce moment-là, on fait parler la personne et il ouvre son paquet. Et à ce moment-là, il arrive relativement à se libérer. Ce qui va dire qu'aujourd'hui, on vit des années déjà après. On a d'autres soucis et pourtant, on est resté bloqué il y a très très longtemps. C'est vrai qu'il y a une autre manière de voir les choses, que là on arrivait à faire parler la personne. Donc il y avait un événement qui s'est passé dans telle et telle période, donc c'est ça qui lui a fait mal. Mais parfois il y a l'âme, en fait notre intérieur, qu'il y a quelque chose qui nous dérange. Et donc, ce n'est pas forcément quelque chose qui s'est passé à telle période où on était blessé, quelque chose de très mystérieux, qu'on n'arrive pas à savoir quoi. Et pourtant, il y a quelque chose qui nous dérange et on ne le trouve pas dans les différents effets. C'est parce que dans notre âme intérieure, il y a une certaine volonté ou il y a d'autres choses qu'elle s'exprime, mais nous, on n'arrive pas à la comprendre. Donc, c'est ça qui fait les différences et les décalages entre la volonté de l'âme et ce qui se passe dans le comportement de la personne. Donc, l'homme, il ne connaît pas ce que l'âme, son âme, elle veut, mais et pourtant, il est dérangé. Donc, il y a de différentes manières dans la psychologie. Souvent, il y avait des psychologues ou d'autres dans ce domaine qui développaient ces notions, parfois d'une manière, parfois d'une autre manière. Il y a une grande différence entre la vision, entre tous ces sages, comme Freud ou d'autres, qui ont développé cette notion, entre eux-mêmes, il y avait des visions carrément opposées. Parmi les élèves de Freud, il y avait un homme qui était aussi un juif qui est d'Autriche, qui s'appelait Viktor Frankl. Lui, il était un élève de Freud et il était influencé par lui. Mais à un moment donné, il n'était pas d'accord avec lui. Lui, il a travaillé sur ce domaine, surtout après la guerre. Il a commencé déjà avant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Mais pendant la guerre, il était déporté, finalement, il raconte dans son livre un petit peu ce qu'il a compris. En fait, la vie ces endroits où il était enfermé. Mais il raconte ce qu'il a pris là-bas. En tout cas, lui, il a pensé qu'on a un fond. Un fond très fort. Et que si on arrive à développer cette force intérieure, ça peut nous guérir. Il a fait un livre, plusieurs livres, mais parmi les livres qu'il dit que l'homme il cherche une signification ou bien un but dans la vie. Et si on a un problème, c'est parce qu'on n'a pas trouvé ce but dans la vie. Alors il y a ceux qui pensaient parmi les penseurs. Ils ont pensé que ce qui peut guérir, c'est le plaisir. L'homme cherche le plaisir. S'il va avoir ce plaisir, il va guérir. Et lui, il a pensé qu'il y a quelque chose d'encore plus profond dans l'âme qui, si on arrive à la développer, en tout cas comme ça j'ai lu, et on peut guérir pas mal de choses. Parce qu'on sait que l'homme, parfois, il a tout ce qu'il veut. Mais quand même, il est mal. Même s'il arrive à voir ce qu'il a envie, mais quand même, il est très souvent mal, il n'a pas trouvé sa place. Par contre, quand quelqu'un qui a un but dans la vie, alors à ce moment-là, on peut guérir avec ça. On peut guérir psychologiquement et même au niveau physique et certaines maladies, en fait, on peut guérir. Donc lui, il a beaucoup travaillé sur ce domaine. Mais après la Shoah, donc lorsqu'il est revenu sur sa vie natale à Vienne, et il a essayé de développer cette idée, il n'y avait pas, les gens étaient plutôt influencés par l'idéologie et pour l'enseignement de Freud. Et lui, il restait de côté, il n'arrivait pas à développer son idée. Et il était très malheureux, parce que son idée était carrément... les gens étaient plutôt dans cet esprit de Freud à cette époque. Et il y avait une dame, qu'elle aussi, elle était de Vienne, mais ils ont quitté bien avant la Shoah, ils se sont installés en États-Unis. Et lorsque, après la Shoah, elle allait voir le rabbi de Lubavitch pour une certaine raison, c'était l'année déjà 59. Elle était mariée, elle allait voir le rabbi, et elle a ouvert son cœur. C'est la première fois qu'elle a exprimé sa malheur de ce qui s'est passé dans la Shoah. En vérité, je ne me rappelle pas si c'était avant. Elle a passé la Shoah, mais en tout cas, elle a passé des moments difficiles. Elle a parlé, elle a exprimé. En tout cas, elle a dit au rabbi qu'elle a bien aimé voir sa ville natale, Vienne, après des années qu'elle n'était pas là-bas. Et le rabbi a dit que si elle va là-bas, il veut bien lui demander un service. Donc finalement, lorsqu'elle est partie là-bas, elle a demandé au rabbi ce qu'il voulait. Et il voulait deux choses, mais une des choses, il a demandé qu'elle a dit qu'il y a quelqu'un là-bas qui s'appelle Victor Frankel, qu'il faut l'encourager. Donc si elle peut lui passer son salutation... Et dire qu'il continue dans son schéma, qu'il se décourage pas. Et lorsqu'elle allait effectivement à Vienne, elle allait dans la clinique ou l'hôpital ou je sais pas où il a travaillé. On lui a dit que depuis deux semaines qu'il est pas là, donc elle allait chez lui à la maison. Là, une dame a ouvert. Il n'était pas disponible, mais elle a demandé de lui parler. Il y avait donc lui qui s'est présenté. Il n'avait pas envie de parler. Il avait l'air de quelqu'un qui... En fait, on a demandé qu'il vienne. Il vient, mais il ne voulait pas du tout parler. Alors, elle a dit ce message. Elle a dit que l'abbé de Lubavitch a demandé de vous passer son salutation. Et il voulait vous dire de continuer dans votre chemin, dans votre découverte, dans vos travaux. Et vous allez finalement réussir. Et lui, il était très étonné que le rabbi, je ne sais pas s'il connaissait le rabbi, certainement que oui, mais en tout cas, il s'intéresse à lui et à ses messages qui est arrivé juste au moment où il avait besoin, parce qu'il était très découragé que ses découvertes, ses enseignements ne sont pas écoutés, donc il voulait tout quitter et aller s'installer vers sa sœur en Australie et abandonner toute son idéologie. Et le rabbi voulait qu'il développe cette idéologie. À ce moment, il n'était pas du tout religieux, il était même carrément loin de tout. Et pourtant, il était très touché par ses paroles. Finalement, c'est grâce à ça qu'il est resté, il a développé. Et finalement, sa vision de la chose, qu'effectivement on peut guérir par l'effort intérieur, on peut guérir pas mal de choses. Son livre, apparemment il avait un livre principal, il y avait plusieurs livres. Et il marquait les chiffres, combien de fois, combien de millions de livres on a vendu. Mais en tout cas, que finalement, son idéologie et son idée arrivaient à être développées dans ce monde psychologique ou d'autres domaines. Alors, pour moi, mais les choses qu'il raconte là-bas, comment un homme, comment chaque personne est là en lui, un fort intérieur, et qu'il dit qu'on peut tout prendre chez l'homme et pas cette force intérieure. Et si l'homme il a cette force intérieure, il peut tout faire avec ça. Il raconte que dans les camps où il était pendant la Shoah, pendant la guerre, il y avait des gens qui ont tout perdu. Mais cette foi, ils ont passé d'un endroit à l'autre pour encourager les gens, même si eux, ils ont tout perdu. À partir de là, c'était encore une preuve qu'il y a un fort intérieur, que si on arrive à développer cette force intérieure, alors à ce moment-là, ça peut travailler sur nous à l'extérieur. Et le rabbi voulait qu'il développe cette idée, et effectivement, il l'a développée, parce que ça va bien avec l'esprit chassidique. Et là, on dit qu'il y a différentes manières de voir ce même force intérieure. Il y a ceux qui pensent que l'homme, il est mauvais par excellence, et ce fort intérieur bon, il ne peut pas influencer les côtés négatifs de l'homme. Et lui, il voulait développer, apparemment il est arrivé à développer cette notion que notre fort intérieur nous donne une force pour battre beaucoup de choses négatives. En tout cas, ça c'est quelques mots par rapport à ce personnage. Et aujourd'hui, on est dans la paracha de Kitetsé. La paracha Kitetsé, on peut traduire le mot comme ça, lorsque tu sors en guerre contre tes ennemis, alors il est marqué de choses, qu'est-ce qu'on fait dans la guerre. En vérité, dans notre paracha, c'est pas la paracha de la guerre. La guerre, on a parlé déjà dans la paracha de la semaine dernière. Il est marqué là-bas, qu'est-ce qu'on fait à la guerre? Qui va à la guerre? Comment on encourage les soldats? Ce qu'on n'a pas le droit de faire pendant la guerre, en fait, des différentes choses. Il est marqué déjà pendant plusieurs versets dans la paracha de la semaine dernière. Et ici, la paracha, notre paracha, elle recommence par les mêmes phrases. Et pourtant, dans la paracha, on ne parle pas du tout de la guerre. Il est marqué encore une fois, lorsque tu sors en guerre, alors là on parle de, il voit dans la guerre une femme, là aussi il y a un message très moral, même si on est en guerre, et les gens, les soldats, ils font parfois n'importe quoi, ce qu'ils ont envie de faire, la Torah nous dit comment se comporter, il faut être un homme moral, même au moment de force, etc. Ça c'est un sujet à part. Donc, alors, on ne parle pas du tout de la guerre, on parle d'être même, garder nos morales, même au moment de la guerre, où ce n'est pas toujours le cas. Alors, on va revenir à ça, Mais donc, dans notre paracha, on ne parle pas de la guerre. Juste, on dit que lorsque tu seras en guerre, tu vas voir telle ou telle femme, alors sache comment se comporter bien. Ensuite, ça y est, on ne parle plus de la guerre. Donc, la guerre, on a parlé dans la paracha de la semaine dernière. Et la question qui se pose, surtout selon cette vision, que le nom de la paracha, c'est le sujet de la paracha. Donc, notre paracha qui parle pas du tout de la guerre, qu'au début, c'est qu'un titre, et pourtant, cette paracha, elle porte le nom de la guerre. De là, on peut comprendre quelque chose d'intéressant, c'est qu'on dit que la vie, c'est une guerre. Ça veut dire, il y a la guerre physique, on a des ennemis, malheureusement, parfois, et parfois, on est obligé de faire la guerre, mais il y a aussi une guerre, la vie, c'est une guerre. On commence par la manière comment on se marie, et comment on gère notre vie, la vie de couple, comment on éduque nos enfants. En fait, on parle des choses parfois malheureuses, des enfants rebelles. Et on parle d'autres choses, on parle des objets perdus. Donc, c'est aussi une notion simple. On parle de différentes choses de la vie, comment payer les salariés, à quel moment il faut payer les salariés. Mais en tout cas, quelque part, si le titre de la paracha, c'est la guerre. Et le sujet, c'est la vie courante. Ça veut dire qu'il faut considérer que la vie courante, c'est une guerre. Pourquoi la vie courante, c'est une guerre? C'est tout simplement parce que chaque chose dans la vie ne vient pas simplement. Il faut faire la guerre intérieure pour gagner cette guerre et pour avoir des victoires. Dans les différentes choses, si l'homme il va faire ses efforts, s'il va pas battre pour sa vie, pour gagner la vie, pour faire telle et telle chose, et même pour ses comportements, s'il va se laisser faire, il va pas se battre, donc la vie elle va être différente. Et nous on voit la vie comme une guerre. La vie n'est pas facile. Il y a des choses, il faut pas se laisser faire, mais il faut mener. Il faut pas être mené, mais il faut mener. Il faut faire la guerre, donc entre nous et nous, contre nous et nous, nous à l'intérieur de nous aussi, on a une guerre intérieure, il faut mener la guerre et gagner la guerre. Alors à ce moment-là, toute la vie c'est une guerre et c'est ça la vision de la Torah. Maintenant, il y a une question intéressante qu'on pose dans la Chassidoute. Il est marqué ici comme ça, deux questions. La première question, il est marqué ici, lorsque tu sors en guerre. Et la question qui se pose, tout d'abord, pourquoi sortir en guerre? Ça suffit de dire, lorsque tu vas faire la guerre, c'est vrai qu'en français ça se traduit autrement, mais on sait que dans la Torah, elle parle pas beaucoup, elle essaie d'éviter des mots, donc... C'est vrai qu'en français, on va dire « lorsque tu fais la guerre », mais en hébreu, on dit « lorsque tu guerres ». Je ne trouve pas des mots équivalents, mais parfois, il y a des mots, on économise des mots. En tout cas, il ne faut pas dire « lorsque tu sors en guerre », c'est un mot de plus. Encore une autre question, il est marqué « lorsque tu sors en guerre sur ton ennemi ». Il est marqué « aloivecha », ça veut dire « sur ton ennemi ». Et plus juste à dire « lorsque tu fais la guerre », avec ton ennemi. Et là, on arrive aux mêmes idées. C'est puisqu'on parle d'une guerre intérieure, donc, et parfois, chacun, il a ses guerres, il a ses difficultés. Où est-ce qu'il va trouver sa force pour gagner cette guerre? C'est à l'intérieur de lui. Il doit savoir qu'il a un fond intérieur, et s'il va l'utiliser, alors à ce moment-là, il va être sur son ennemi. Ça veut dire qu'il va être plus fort que son ennemi. Il va être... c'est la notion de sûr. Ça ne va pas être un contre l'autre. Peut-être là, il va gagner. Peut-être l'autre, il va gagner. C'est sûr que lui, il va gagner parce qu'il va utiliser sa force intérieure. Comme parfois on dit dans d'autres domaines, on dit que c'est l'esprit qui arrive à contrôler la volonté. Amor shalit al lev en dieu en hébreu, ça veut dire que c'est l'esprit qui gère le sentiment et c'est pas le sentiment qui gère l'esprit. En tout cas, ça c'est quelqu'un qui là, il réagit bien. Là aussi, on a une force intérieure qui doit nous gérer. Si on sait le gérer, si on, et cette force intérieure, il faut la faire sortir. Alors là, on arrive à un autre sujet, justement, c'est qu'on est dans un monde de combat. La vie, c'est un combat, parfois plus facile, parfois plus difficile. Et chez certains, la vie est plus facile, chez certains, la vie est plus difficile. On se pose la question, pourquoi la vie est difficile? Pourquoi Dieu, il a fait, il nous a donné une vie difficile? On n'a pas toujours la réponse, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que il faut donc Dieu il attend de nous d'utiliser nos forces intérieures et lorsqu'on a l'occasion, alors à ce moment-là, qu'on a une raison de faire le combat, ça veut dire que lorsqu'on a quelque chose ou bien une situation qui oppose à notre volonté, à notre devoir, à ce moment-là, on dévoile nos forces intérieures, on sort nos forces intérieures, et à ce moment-là, c'est l'occasion, c'est la seule occasion qu'on révèle nos forces, parce que sinon, on ne révèle pas nos forces. Là, on connaît dans d'autres domaines qu'on dit à l'homme, il faut que tu te révèles ta force. Il y a des enfants, parfois, qui grandissent dans une maison où il y a tout, mais ils n'utilisent pas leurs forces, ils n'utilisent pas leurs capacités. Mais lorsqu'ils ont des épreuves, c'est là où ils sortent leur capacité. En tout cas, Dieu, il nous a créé dans un monde où il faut révéler nos capacités. Et pour révéler nos capacités, parfois on a des épreuves. Parfois les épreuves sont plus grandes, parfois les épreuves sont plus petites. Mais en tout cas, on a des épreuves et c'est qu'à ce moment qu'on révèle, on utilise nos forces qu'on n'est même pas au courant qu'on a ces forces. Et c'est pour ça que notre paracha qui parle, dans notre paracha, il y a énormément de lois. Et des lois, d'une part, c'est des lois de toutes sortes de la vie, de tout ce qui se passe dans la vie, depuis le mariage, d'ailleurs, que ça peut être un combat, jusqu'à, comme on a dit tout à l'heure, l'éducation des enfants, et beaucoup d'autres choses qu'on passe dans notre vie, ça c'est un combat. Et le but, c'est que l'homme, il révèle ses capacités. Les capacités, c'est des choses, des forces intérieures que parfois, on n'a pas l'occasion de les révéler. Parce que la vie, lorsque la vie, elle roule d'une façon normale, on n'a pas nos capacités. Donc, c'est ça l'idée qu'on vient de dire. Que c'est pour ça que la paracha, elle dit qu'il t'est fait, parce qu'il faut sortir de ce confort. D'une part, mais il faut sortir son bien intérieur, ses forces intérieures, et les révéler dehors. Et ça, c'est l'homme. Et c'est comme ça que l'homme, non seulement qu'il va gagner sa vie, et d'une autre part, il va être heureux, parce que l'homme, qu'il arrive à exprimer son âme, alors à ce moment-là, c'est l'homme qui est bien. Alors c'est vrai, de toute façon, c'est vrai, mais il y a... Freud, ce n'est pas le premier, bien sûr que ce n'est pas le premier qui a développé cette idée. Et on trouve avant lui, dans de différents livres, surtout les livres qu'on utilise beaucoup, c'est le livre de Tania, qui a été écrit il y a à peu près 220 ans par le premier rabbi de Lubavitch, le rabbi de Chabad. Et là-bas, il explique comment on a à l'intérieur de nous deux volontés. Il l'appelle deux âmes, l'âme animale et l'âme divine. Et il y a une guerre permanente entre les deux. Et il explique beaucoup de choses par rapport à ça, mais c'est important de savoir qu'on a deux choses à l'intérieur de nous. Le but, c'est qu'il vit en paix entre eux, mais c'est surtout lorsque l'âme divine elle s'exprime, elle montre comment son schéma est la bonne. Mais en tout cas, de toute façon, il y a aujourd'hui, ce qui est intéressant, qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, dans les différentes universités en Israël ou ailleurs, qu'on a développé, on utilise le Tania, qui parle de notre intérieur pour guérir, pour utiliser comme méthode psychologique ou d'autres et pour guérir des gens. Et il y a des livres, et surtout c'est quelques décennies, les dernières décennies, que les gens ont trouvé le bien fondé dans cet anien qui montre justement ces notions. Mais en tout cas, dans le judaïsme, ce ne suffit pas de révéler notre intérieur. Pour révéler notre intérieur, il faut savoir l'utiliser. Et on sait que la Torah nous donne des lois. Et quelque part, lorsque les lois de la Torah correspondent en force de l'âme. Il est marqué dans la Mishnah qu'il y a 248 organes. Elle détaille comment on compte les organes. Il y a différentes manières. Et dans la Kabbale, il est marqué qu'il y a 248 forces spirituelles qui là rentrent dans l'autre. Ça veut dire que comment on peut exprimer notre bien intérieur spirituel, c'est par le fait qu'on pratique au niveau physique avec nos corps, on pratique ces lois. Donc alors finalement, d'une part, il faut savoir libérer notre intérieur, laisser notre intérieur, notre âme s'exprimer, mais la meilleure manière de le faire s'exprimer, c'est par le même par la méthode ou bien l'ustensile que la Torah nous a donné, c'est par le fait qu'on pratique les mitzvot, les lois de la Torah. Donc à ce moment-là, c'est une manière de faire exprimer notre âme. Il y a pas mal de choses à dire par rapport à ça, mais pour en tout cas terminer aujourd'hui cette partie, que la lutte n'est pas toujours facile. Parfois, les gens, ils arrivent toujours pas à exprimer leur intérieur. Ils restent un petit peu, ils restent malheureux. Ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'il y a dans la vie, il y a des luttes, et parfois on lutte et on ne voit pas de résultats. Et ça, il y a des gens qui voient des résultats, il y a des gens qui ne voient pas de résultats. En tout cas, dans l'esprit de notre paracha, il y a 30 quelques années, où le rabbi disait qu'aujourd'hui, on est dans une période, alors même si on est dans une période toujours douloureuse, ça suffit de voir l'information pour voir ce que se passe, mais on s'approche à cette période messianique où on va voir le résultat de notre travail. Il y avait une période où il y avait un écart entre l'esprit et le corps. Aujourd'hui, on s'approche à cette période où on va voir comment finalement il y a une paix intérieure et une paix extérieure. Alors encore aujourd'hui, pour le moment, on ne voit pas, mais on s'approche de cette période qu'il y aura. Même lorsqu'on va faire la guerre intérieure, mais cette guerre intérieure va être avec facilité, parce qu'on va voir tout de suite le résultat. En tout cas, ça c'est un petit peu l'esprit, les différentes idées qu'on trouve dans les différents philosophes ou d'autres pendant les générations, on les trouve dans la Torah encore beaucoup plus fort et beaucoup plus, d'une façon beaucoup plus développée. En tout cas, puisqu'on est la veille, à la fin de l'année, où on essaye d'arranger, de corriger, de faire mieux, et donc que ce travail elle va être plus facile, qu'on puisse utiliser nos forces intérieures, le laisser exprimer, et qu'on aura, puisqu'on a la veille de Rosh Hashanah, la nouvelle année, qu'on aura chacun une bonne et douce année, une année heureuse, une année joyeuse, une année où on arrive à exprimer notre intérieur et une année de Mashiach. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.
Fêtes et culture juive avec Raïm Slonim sur le 97.1.